Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on parle de la pub. Voilà de quoi donner le blues à notre expert du jour, Thomas Guéret. Thomas Guéret, j'hésite parfois à demander à mes experts s'ils ont le blues, mais vous, j'hésiterai pas, je crois. Je pense que vous pouvez avoir le blues, vous qui êtes un expert, si on peut appeler ça ainsi, de la publicité. Vous êtes en tout cas un militant engagé dans l'association Résistance à l'agression publicitaire, RAP, une association anti-pub. Une association qui fête cette année ses 26 ans et vous-même vous y êtes depuis 24 ans. Et franchement, on n'en voit pas le bout de la publicité.
Non, c'est ça, effectivement. On ne fait pas de la fête tous les ans pour l'anniversaire de RAP parce qu'effectivement, ça ferait beaucoup. Mais l'association a été créée en 92 et puis moi, je l'ai rejointe modestement, j'allais dire, mais c'était peu après finalement, en 94. Voilà. Et donc, est-ce que je suis un expert de la publicité ? Peut-être si tant est qu'on peut l'être, mais c'est-à-dire plutôt avec une vision d'ensemble et puis en faisant des liens avec différents sujets qui sont impactés, disons, par la publicité. Parce qu'autrement, mon métier, c'est plutôt les économies d'énergie, l'énergie durable, les questions de projets de société un peu durables, un peu relatifs au changement climatique, etc.
Mais donc, pourquoi est-ce que vous aviez rejoint cette association qui luttait contre la pub ?
En fait, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement et j'étais étudiant à l'époque. J'étais dans l'école d'ingénieurs, l'école nationale des travaux publics de l'État à Lyon. Et j'ai un collègue d'une année avant moi qui faisait son objection de croissance dans une association lyonnaise qui s'appelle la Maison de l'écologie. Et parmi leurs missions au sein de cette association, il y avait à mi-temps, il devait avoir un projet associatif. Et son projet associatif, il avait vu ça, RAP, Résistance à l'agression publicitaire, il a dit « je voudrais faire une antenne à Lyon ». Il m'en a parlé, et en fait, en quelques mots, il m'a brossé une image qui est celle d'un système de pouvoir, qui est le système publicitaire. Et là où j'avais vu jusque-là, effectivement, quelques nuisances liées aux abus de la publicité, tout d'un coup, tout s'est cristallisé, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était pas seulement quelques embêtements avec la publicité dans les boîtes aux lettres ou quelques publicités désagréables au téléphone ou à la télévision. C'était vraiment un système total et totalitaire de mise en condition et de manipulation de citoyens et de la société.
Vous diriez que ça s'est érigé en système immédiatement ou que c'est devenu un système, Thomas Guéret ?
Ça fait très très longtemps. C'est-à-dire la publicité, même le terme de publicité, dans son utilisation moderne, c'est-à-dire la réclame. Parce que jusque-là, la publicité, ça voulait dire simplement rendre une information publique. Et à partir des années 30, les publicitaires se sont rendus compte que tout le monde détestait la réclame, que ça marchait plus, que les gens étaient matraqués par des affiches, par des messages partout. Et que s'ils voulaient pouvoir continuer à coloniser les esprits, il fallait trouver d'autres mots, manipuler le langage. Donc ils se sont appelés publicité et les publicitaires. De même que plus tard, comme la publicité est devenue de nouveau un mot complètement détesté et très clair, et on sait très bien de quoi on parle et qu'on ne l'aime pas, ils ont parlé de communication. Donc maintenant, on a des agences en communication, et puis il y a la publi-information, le publi-rédactionnel, voilà. On joue sur les mots en permanence pour essayer de faire croire que c'est pas de la pub, mais c'est de la pub quand même.
Mais c'est drôle, en vous écoutant, je me fais cette réflexion pour la première fois. C'est vrai, vous avez raison, qu'on n'aime pas la pub. Les gens n'aiment pas la pub, d'une manière générale. Et pourtant, ce système est omniprésent et porteur d'une pseudo-gaieté qui est particulièrement insupportable, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les gens ne sont pas dupes.
C'est un des plus grands publicitaires américains, je crois, qui s'appelle David Ogilvy, qui, dans les années 60, a dit « Les gens ne nous aiment pas, et s'ils nous connaissaient mieux, ils nous détesteraient ». Alors je crois que ça décrit bien ça, c'est-à-dire que la publicité, c'est un système contre lequel finalement on a tendance à s'énerver en se disant « mais ils exagèrent, qu'est-ce que c'est que ces femmes nues, qu'est-ce que c'est que cette violence, qu'est-ce que c'est que cette omniprésence, ce matraquage ?» Mais les tenants de ce système, et avec eux tous les médias, je vais y revenir, essayent de nous faire croire que ce sont des dérives ponctuelles et que finalement le système publicitaire dans son ensemble serait acceptable. Mais en fait, il ne l'est pas du tout. Et donc, à partir des années 30, les publicitaires ont employé les techniques les plus modernes de la propagande. C'est-à-dire ce qui était issu, finalement, de la psychanalyse avec l'inconscient, des techniques de propagande nées pendant la Première Guerre mondiale, avec notamment les comités de propagande mis en place par le premier président américain, Theodore Roosevelt, qui s'était fait élire en 1916 en jurant qu'il ne ferait pas la guerre en Europe. Et il est allé faire la guerre en Europe. Je ne dis pas ici que c'est bien, que c'est mal qu'il soit venu ou pas. Bon, passons sur cette question-là. En tout cas, d'un point de vue de l'opinion publique, il a retourné l'opinion publique de son pays en organisant des comités de propagande qui ont prévu quels messages, notamment des messages odieux sur les prétendues exactions des soldats allemands en Belgique, etc., partout, pour retourner l'opinion américaine et pouvoir faire la guerre. Donc à partir de là, finalement, ces méthodes ont émergé et elles ont été pleinement utilisées par les publicitaires. Ils les ont développées et puis là, c'est dans l'autre sens, au moment de l'accession des nazis au pouvoir en Allemagne, au début des années 30, là, ce sont les nazis qui ont employé les techniques publicitaires pour reprendre le pouvoir. C'est-à-dire notamment la croix gammée, c'est vraiment une technique publicitaire. C'est quelques militants dans chaque ville d'Allemagne étaient suffisants pour aller tracer des croix gammées partout pour que tous les Allemands pensent que c'était un grand parti, que c'était des gens qui en avaient partout, qu'ils étaient présents, qu'ils étaient puissants, etc. Et donc à partir d'une espèce de groupuscule, ils ont réussi à faire monter comme ça un mouvement absolument énorme. Et puis évidemment, tous les grands discours dans les stades, les Jeux olympiques de 1936, etc., tout ça, c'était vraiment l'application par la propagande d'État de méthodes publicitaires. Donc en fait, on est face à un système qui est vraiment un système total de contrôle et de manipulation, quoi, voilà. Alors ça passe aussi par quelque chose, par exemple, qu'on appelle les relations publiques. Quand on parle aux gens, oui, je suis responsable de relations publiques, on se dit, ah bah oui, c'est très bien, l'entreprise a besoin d'avoir des relations avec les institutions, c'est normal. Mais en fait, non, pas du tout. Les relations publiques, c'est une branche, une technique mise en place notamment par les grandes entreprises dans les années 30 aux États-Unis, qui consiste à avoir des relais d'opinion. C'est-à-dire, si vous voulez faire passer des idées, vous n'allez pas les présenter dans un débat d'idées ou pour confronter avec des gens qui ne seraient pas d'accord. Vous allez choisir des personnalités qui sont bien en vue dans les médias. Vous allez les payer, mais sans dire que vous les payez. Et elles vont présenter d'idées comme ça, insidieusement, comme si c'était quelque chose de naturel, etc. Alors l'exemple le plus frappant, peut-être, c'est la consommation de tabac par les femmes. C'est-à-dire, jusqu'aux années 20, aux États-Unis, les femmes ne fumaient pas. Parce que c'était mal vu socialement, ça se faisait pas, etc. C'était une activité d'homme. Et les cigarettiers se sont dit, mais on veut vendre plus de tabac, il faut que les femmes fument. Alors qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés chercher des suffragettes et ils ont donc enrôlé des femmes pour que dans les manifestations de suffragettes, elles se montrent avec la cigarette et qu'elles disent « je fume parce que les femmes aussi ont le droit de fumer ». Et donc, au lieu d'être une nuisance horrible auquel les femmes échappaient jusque-là, c'est devenu le symbole d'une libération de la femme. C'était un tour de passe-passe extraordinaire. Donc voilà, c'est cette capacité-là que les publicitaires ont, grâce à ces relations publiques, de nous faire passer tel nouveau modèle de voiture, telle nouvelle habitude alimentaire, etc.
Mais quand vous dites les publicitaires, Thomas Guéret, qui sont ces penseurs qui ont imaginé ce système, qui sont ceux qui l'ont fabriqué? Vous avez cité David Ogilvy, qui est effectivement un publicitaire. Vous avez évoqué la psychanalyse, et effectivement, c'est un descendant de Freud, je ne sais plus lequel, qui a beaucoup compté dans la théorisation de ce que c'est que la publicité. Il y a la théorisation, et puis il y a la mise en place de tout cet arsenal que vous êtes en train de décrire.
Oui, c'est vraiment un déploiement, finalement, d'un projet de pouvoir qui s'est mis en place. C'est quelque chose de très effrayant, finalement, parce que je parlais de la Deuxième Guerre mondiale. Pardon de revenir là-dessus. Je sais que c'est un peu la dérive. On a tendance à parler facilement de ces événements pour tout et n'importe quoi. Mais je crois que là, c'est vraiment opportun. La résistance en France s'est organisée avec l'idée d'un nouveau projet de société. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet de société? Il y avait l'idée d'avoir des médias libérés des influences capitalistes. Parce que juste avant la guerre, les médias étaient entièrement possédés par des industriels et par des capitalistes. Ce qui fait que, finalement, tout tournait en rond là-dedans et la place des citoyens et du débat d'idées était extrêmement faible et c'était très, très problématique. Et donc, l'oppression nazie est arrivée là-bas, par là-dessus, qui était d'ailleurs pas complètement... c'est pas une invasion qui est arrivée comme ça. Je veux dire, la domination des esprits par l'industrie était déjà là et les nazis n'ont fait que les exacerber. Alors... ces gens-là, pendant la guerre, ont dit « on va faire notre programme qui s'appelle « Les jours heureux », le programme du Conseil national de la Résistance ». Ils ont écrit ça aux pires heures de la guerre. Et parmi les mesures phares qu'ils ont mis en avant, il y avait l'indépendance de la presse et l'interdiction de la publicité dans la presse et l'interdiction de la presse appartenant aux industriels. Donc ça a tenu pendant un moment, il y a eu des ordonnances, hein, juste après la guerre, en 1946, qui ont instauré ce système, et c'est seulement à partir de la fin des années 60, années 70, là aussi, sous prétexte de libération des mœurs, 1968, etc., donc les publicitaires savent toujours bien enrober leur cochonnerie, qu'on est revenu là-dessus, et qu'aujourd'hui, on est revenu à une situation dans laquelle l'écrasante majorité des organes de presse, que ce soit aujourd'hui la télévision, la radio, l'Internet, les journaux, etc., sont soit directement la possession de grandes industries, soit, si ça n'est pas le cas, sont complètement manipulés par les budgets publicitaires. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est finalement dans une situation où le système publicitaire fera tout ce qu'il peut pour nous faire croire qu'il y a une pluralité, qu'il y a des dérives, mais que le système lui-même est acceptable, que la publicité, c'est quand même la joie, que c'est la beauté, que c'est la liberté d'expression. Mais en sous-main, évidemment, c'est tout le contraire. C'est Claude Gaux, un grand défenseur de la santé publique, qui est à l'origine notamment de la loi Evin, des choses comme ça, qui est remise en cause aujourd'hui.
La loi Evin sur le commerce de l'alcool.
Oui, sur la publicité pour le tabac et pour l'alcool, effectivement. Et donc, Claude Gaux dit avec justesse, dit depuis longtemps avec justesse, les publicitaires savent très bien utiliser une liberté pour en étouffer une autre. Donc c'est exactement ça.
Mais bon, on n'a pas finalement tellement parlé de qui sont les penseurs, les théoriciens, mais après tout, qu'importe, Thomas Guéret, on peut les trouver assez facilement. Mais en revanche, ce qui est assez frappant, c'est que vous citez à plusieurs reprises des entreprises qui sont derrière et qui sont là pour vendre. Et donc, vous faites un lien assez clair entre publicité et vente. Bon, tout le monde peut le faire, évidemment. Mais est-ce que peut-être on pourrait aller plus loin là-dessus? Et dans le même temps, ce qui est très frappant, c'est que vous ramenez aussi la politique. Donc, si on pouvait peut-être voir comment se tisse quelque chose entre les discours politiques, entre une volonté politique et une volonté économique, je trouve que ça pourrait être assez intéressant. Parce que de fait, ce que vous avez décrit sur le panorama de la presse, c'est assez saisissant. Quand on pense qu'il y a encore 30 ans, il était interdit à un patron de presse de posséder plus de un ou deux titres, je ne sais plus. Et aujourd'hui, tout ça a été balayé. De même que l'entrée du grand capital dans le capital de la plupart des journaux est maintenant une chose acquise. Donc on voit bien qu'il y a là une sorte de tandem politique, économique.
Oui, c'est très saisissant de voir à quel point maintenant la communication politique repose sur l'intervention de communicants, on a entendu les guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont des agences de publicité et qui vont avoir directement le mandat de redorer le blason de tel ou tel politicien, de préparer des campagnes. Et on se rend compte aujourd'hui que la plupart des politiciens ont comme première priorité leur visibilité et leur succès médiatique et en termes d'image, bien avant le succès de leur politique publique et le fait de tenir leurs promesses, etc. Tout ça est devenu complètement secondaire. Donc c'est l'un des exemples, je dirais, de cette vampirisation de la publicité dans un autre domaine. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. On a parlé de la presse qui est totalement vendue à la publicité. Et là, il y a des exemples hein, qui sont rares, mais qui existent, où on sait que l'influence de tel annonceur a fait changer la teneur éditoriale d'un journal sur un cas précis.
Par exemple ?
Peut-être le cas le plus flagrant, c'est celui du journal La Tribune. C'est-à-dire jusqu'à il y a quelques années, il y avait deux quotidiens français économiques. Hein. Puis il y en a un qui ne se portait pas très bien, c'était La Tribune. Et un jour, il y a un article qui a été publié disant que quand même les centrales nucléaires d'EDF allaient mal et que peut-être l'EPR, ce n'était pas une si bonne idée, etc. Et donc ça a été très lu, je pense que c'était un beau succès éditorial de La Tribune, sauf que, pas de chance, ils avaient comme annonceur EDF, qui a dit du jour au lendemain, comme ça, bah non, nous on arrête de financer la publicité dans La Tribune. Et ça a tout renversé, parce qu'ils avaient une somme suffisante, je ne me rappelle plus maintenant les chiffres, mais peut-être de l'ordre d'un million d'euros ou quelque chose, qui a complètement fait basculer ce journal qui était déjà en limite d'instabilité financière. Quoi. Et depuis, le journal n'est plus quotidien, c'est devenu, je crois, un hebdomadaire, qui, je crois, existe toujours, mais je ne lis pas beaucoup de cette presse-là. Donc voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Hein,
Mais celui-ci est intéressant. Restons aussi un petit instant, Thomas Guéret, puisque il y avait eu ce spectacle de Nicolas Lambert il y a deux ans, trois ans maintenant, je crois, qui s'appelait « Avenir radieux, une fission française ». C'est un du théâtre documentaire, puisque Nicolas Lambert s'intéresse de très près à tout ce qui a été dit par les politiques, par les cadres et les dirigeants d'EDF, d'Areva, etc. Et il faisait cette réflexion que je voudrais mettre en regard avec ce que vous venez de nous dire là. Quand on voit une publicité pour une barre de chocolat, oui, c'est vrai, parfois on peut avoir envie de manger du chocolat, ça peut donner envie de manger du chocolat. Mais, disait-il d'un air un peu inquiet et sceptique, il disait, mais moi, quand je vois toutes ces publicités pour l'électricité, ça me donne pas envie d'allumer mon four, d'ouvrir mon frigo, d'allumer toutes les lumières chez moi. Alors pourquoi toutes ces publicités d'EDF partout? Et il continue en racontant cette histoire que vous venez de raconter. Et effectivement, c'est très éclairant, justement.
Oui, oui, la publicité devient un pouvoir un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est une capacité à faire passer des messages ou à contredire des messages que les gens peuvent avoir en tête. C'est-à-dire un mensonge, quand il est dit une fois, c'est un mensonge. Un mensonge répété 2000 fois, c'est Churchill qui disait ça, c'est une vérité. C'est-à-dire si vous avez une capacité à répéter, à matraquer une contre-vérité, elle va finir par passer. On va finir par y croire. Et donc la publicité repose beaucoup là-dessus. Donc effectivement, les entreprises qui n'ont pas du tout des produits à vendre ou dont finalement l'achat du produit est naturel, par exemple le monopole de l'électricité jusqu'il y a peu pour EDF, eh bien faisaient quand même de la publicité. Ce qu'elles voulaient, non pas seulement vendre de l'électricité, mais modifier par exemple nos comportements ou asseoir leur position institutionnelle.
Mais aussi pouvoir aider à fermer un journal quand il fait des articles qui ne sont pas les bienvenus.
Voilà, exactement. C'était un bon moyen, effectivement, de museler la presse par rapport à une opposition à leur politique, effectivement.
Oui, puisque vous étiez en train de nous parler, justement, de ces relations entre la publicité, la presse et la politique, et je vous ai interrompu dans votre élan.
Oui, mais c'est très bien. L'enrichissement de la discussion est toujours positif. Et donc, bon, c'est vrai aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas un domaine de la vie publique, en tout cas, et même dans la vie privée, maintenant, où la publicité ne s'immisce et ne prenne la place du reste, à un point maintenant qui devient extrêmement grave. Donc, on peut parler du sport, par exemple, qui devient quelque chose d'absolument terrifiant avec des méthodes. Tous les événements sportifs sont financés par la publicité, mais ça va encore beaucoup plus loin que ça, puisque c'est une manière vraiment de faire rentrer ça dans nos vies. À propos du sport, on voit augmenter le volume des publicités, mais là aussi, il y a quelque chose de très trouble, c'est qu'en même temps, on entend parler, par exemple, du dopage. Par exemple, des mauvaises fréquentations de certains joueurs ou de certains responsables de fédérations sportives, ou des questions de compromission ou de malversation, de corruption, qui sont très graves. Mais ces questions-là ne sont pas traitées généralement par les journalistes, généralistes, disons. Elles sont traitées par les journalistes sportifs. Donc on a là un biais absolument énorme qui fait que ce sont des gens qui sont convaincus par l'idée du sport, de l'athlétisme, j'ai rien contre l'athlétisme, hein, mais de l'olympisme, voilà, des coupes du monde, des fédérations.
De la compétition de haut niveau.
De la compétition, qui vont finalement défendre quand même le modèle en disant « oui, mais c'est là encore, ce sont des dérives, il y a des gens qui se comportent pas bien, mais quand même le sport, quelle belle idée, etc. » Or, le sport fait partie de la propagande moderne. Récemment, les Jeux olympiques d'hiver organisés par Poutine, les Jeux olympiques en Chine, etc. À chaque fois, c'est un étalage de puissance et de richesse et de pouvoir absolu et formel sur les gens qui est vraiment effrayant.
Thomas Guéret, puisqu'on est sur le sport, c'est peut-être le moment de nous parler de quelque chose de tout à fait récent. C'est ce décret, cette loi Macron qui finalement n'est pas complètement passée, mais tout de même, justement, un petit peu, et là, on retrouve le sport. Vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, bien sûr. Mais en fait, bon, on parlait de blues hein, en introduction, le blues de l'expert. J'ai d'ailleurs pas répondu à la question, donc je vais dire que oui, j'ai le blues, et je vais expliquer justement là tout de suite pourquoi. En même temps, c'est un blues qui est pas seulement négatif. Dans le blues, il y a aussi quelque chose d'un peu d'un espoir de changer les choses. Et donc, particulièrement en matière d'affichage publicitaire, mais dans beaucoup d'autres domaines aussi, on se bat contre des forces qui sont herculéennes, qui sont les forces du marché, qui sont les forces de la privatisation, qui sont les forces de la mainmise finalement de la finance internationale, de l'industrie, sur toute l'économie du monde et même sur nos vies personnelles. Et là, en matière d'affichage, je peux en dire quelques mots. Depuis que je suis à RAP, hein, depuis 1994, et puis les précédents avaient déjà commencé avant, et avec une association notamment qui est Paysages de France, on s'est bagarré contre l'impunité des afficheurs dans toute la France. Et les estimations qu'on avait, qui étaient celles d'ailleurs d'un ministre de l'Environnement des années 90, c'était de dire qu'il y a à peu près 1 million d'affichages publicitaires en France, ça doit être plus maintenant, dont la moitié sont illégaux. Parce qu'il y a un cadre réglementaire qui date de 1979 et une très grande partie des affiches ne respectent pas ce cadre réglementaire qui pourtant est complexe et laxiste. Voilà.
C'est-à-dire que déjà, il autorise pas mal d'affichages.
Oui, bien sûr. Il autorisait déjà pas mal d'affichages, notamment un format très, très énorme qui s'appelle 16 mètres carrés. Le format qu'on voit le plus souvent, c'est le fameux 4 mètres par 3 mètres. Et puis, il y a toute une batterie de dispositifs, les panneaux scellés au sol, les sucettes, qui sont des panneaux scellés au sol de dimensions plus modestes, mais qui s'implantent sur les trottoirs, etc. Bon, il y a toute une batterie de produits absolument affreux pour coloniser notre espace public. Et donc, la loi Macron est venue là avec une proposition poussée par les afficheurs, évidemment, qui était celle de mettre des panneaux publicitaires géants sur les grands stades, voilà, tous les équipements sportifs de plus de 15 000 spectateurs. Et d'en dresser la liste et de dire, voilà, partout là, on pourra mettre des grandes, grandes choses. Mais ça, c'est pas nouveau du tout. Il y a plus de 10 ans maintenant, vers les années 2000-2002, il y avait eu un projet de la ville de Paris et du ministère de mettre des publicités géantes comme ça sur le Parc des Princes. C'était, je crois même que c'était en fait en 1999, voilà ça, vous savez, 17 ans. Et donc, à l'époque, le projet, en fait, ils avaient un peu fait un paquet avec cette horreur d'un côté, et puis, par ailleurs, une dizaine ou une quinzaine d'autres mesures qui étaient plutôt des mesures de restriction de publicité autour de tel square, autour de Paris, extension de la zone d'interdiction, etc. Et donc, ils avaient dit, en gros, c'est à prendre ou à laisser, il y a du restrictif et puis il y a du permissif, et il faut prendre tout. Et le projet devait passer auprès du comité départemental des sites. Et donc, cette instance dans laquelle siègent des associations, etc., devait statuer. Alors, à l'époque, moi, j'avais pris du temps, beaucoup de temps, pour appeler un à un, envoyer des télécopies à l'époque, et appeler un à un tous les membres de la commune. D'abord, récupérer la liste des membres, ce n'était pas évident, et puis appeler un à un tout le monde, plus les fédérations, etc., pour dire, attendez, regardez, on essaye de vous faire passer un truc abominable, des panneaux géants sur le Parc des Princes, vous imaginez ce que ça va faire. Et donc j'avais réussi à faire reculer le truc parce que finalement, à la commission des sites, la plupart des gens à qui j'avais parlé avaient voté contre en disant « Mais nous, on ne veut pas voter contre tout. On va dire oui pour toutes les restrictions de publicité et non pour le truc du stade. » Et le ministère avait dû accepter ça parce que, de fait, plus personne ne voulait voter pour le paquet. Donc voilà, ils avaient raté leur coup. Alors tout ça pour dire quoi ? Mais pour dire qu'en matière de publicité, on est assailli de toutes parts. C'est Yvan Gradis, l'un des fondateurs de RAP, avant que j'y arrive, qui, lui, compare souvent la publicité à une flaque d'eau. Il dit, voilà, tant qu'on ne lui met pas d'obstacle, elle va s'étendre partout, partout où il n'y a pas d'obstacle. Par contre, il suffit d'un petit peu de résistance, un petit cordon sanitaire là, qui va empêcher la flaque de s'étendre. Donc parfois, un seul citoyen ou une poignée de citoyens vont râler, protester, trouver la personne, l'élu ou les services pour dire « attention, ça c'est illégal, attention, ça on n'est pas d'accord ». Et puis la publicité va arrêter de s'étendre. Alors le côté positif, c'est qu'effectivement, on peut voir des résultats, mais ce sont des résultats modestes. C'est-à-dire qu'en général, on arrive seulement à empêcher le système de progresser plus loin. Donc c'est très frustrant, parce qu'on se trouve déjà extrêmement agressé par la publicité. On n'arrive pas à la faire reculer. Déjà, on arrive à l'empêcher de continuer.
Ou en partie, puisque de fait, pour cette fameuse loi Macron, vous avez récolté 60 000 signatures, je crois, et le projet a reculé à moitié.
Oui, parce que la loi Macron, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans la loi, il y avait cette question de dire tous les équipements sportifs de plus de 15 000 personnes seront autorisés à installer des affiches géantes, y compris lumineuses, y compris vidéos de centaines de mètres carrés, etc., sur leur bâtiment.
Il faut préciser que la justification de cette modification de la loi, c'était justement le programme sportif de 2016, une compétition internationale, Euro, je ne sais plus quoi.
Oui, c'est ça. C'est pour l'Euro 2016, effectivement, que ce truc a été proposé.
Et donc, allait être autorisé ad vitam aeternam.
Oui, ça c'est souvent l'occasion aussi, je pourrais parler de la Coupe du Monde de 1998. Là, en l'occurrence, donc la loi Macron a dit, voilà, on autorise l'affichage, y compris visible depuis l'extérieur des stades, hein, sur les terrains publics, depuis chez les gens, etc. Donc des énormes verrues publicitaires dans le paysage. Voilà, donc malheureusement, les parlementaires signent et on a une loi qui prévoit une nouvelle intrusion de la publicité abominable. C'est ce contre quoi je m'étais battu il y a 17 ans. Et puis ça revient, voilà. Donc comme je disais, on l'a retenu pendant un moment. Et là, ça passe. Alors que fait le ministère? Le ministère dit, eh ben voilà, on a une belle loi maintenant avec cette obligation de la mettre dans un décret. Donc on va convoquer une réunion le 25 août 2015. On fait une réunion pour discuter de l'application de la loi Macron et des stades. Non, la réunion était le 3 septembre, pardon. Et le 25 août... ils envoient un nouveau courrier en disant « Ben voilà le texte de décret qu'on vous propose ». Et là, stupeur, le texte ne parlait pas du tout que des stades publicitaires, mais revenait sur pas moins de 4 dispositions centrales de la loi sur l'affichage de 1979, codifiées dans le Code de l'environnement, pour proposer des reculs majeurs en matière de protection contre l'affichage publicitaire. Alors ces reculs, qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'était par exemple autoriser les panneaux scellés au sol dans les villes de moins de 10 000 habitants, même celles qui sont en dehors d'une agglomération de plus de 100 000 habitants. Voilà, parce que jusqu'à présent, il y avait déjà cette horrible exception organisée par la loi, c'est que même si vous êtes une commune de 2 000 habitants, même si vous êtes dans un parc naturel régional, c'est le cas pas très loin de Paris, enfin 70 km de Paris, vous avez une ville de quelques milliers d'habitants, Saint-Amans-Pontierry, qui se trouve, d'après l'INSEE, classée dans l'aire urbaine de Paris. Et donc, ça donne le droit aux publicitaires d'installer des panneaux scellés au sol, alors que c'est une toute petite bourgade, et que, bon, voilà, déjà des aberrations. Mais là, ce que proposait ce décret, c'était carrément dans toutes les villes de moins de 10 000 habitants. Qu'au lieu d'être dans une grande unité urbaine, il y en a 61 en France de plus de 100 000 habitants, il suffisait qu'une commune voisine fasse plus de 10 000 habitants. Donc, c'était la porte ouverte aux panneaux scellés au sol, dans énormément de villes de France. Alors que ça fait 30 ans que tout le monde se plaint de l'enlaidissement des villes, notamment des entrées de villes qui sont saccagées par les zones commerciales et les panneaux publicitaires qui vont avec. Alors voilà, donc la loi Macron donne lieu à un décret d'application qui, sans d'ailleurs lien avec la loi elle-même, le décret d'application Macron prévoit de rentrer là-dedans. Il prévoit aussi de modifier finalement, tant qu'on y est, les tailles autorisées pour l'affichage. Donc ça, c'était une des rares avancées du Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'était 2007-2008. Hein. Donc on est à 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, en juillet 2015, on commence à appliquer la réduction du nombre de panneaux. On commence à appliquer aussi la suppression de ce qu'on appelle les pré-enseignes dérogatoires, qui sont ces petits panneaux en dehors des agglomérations. Quand vous rentrez dans une ville en France, vous avez des dizaines de petits panneaux plantés sur le bord de la route, au milieu des champs. Et ça devait être interdit. Hein. Et donc là, on revient tranquillement là-dessus en disant, ben voilà, maintenant, la réduction de la taille des panneaux, on supprime.
Juste au moment où on allait commencer à le faire.
Juste au moment où on commençait à le faire, d'une certaine manière, effectivement. Alors, les publicitaires avaient encore des délais, etc. Donc, ils n'avaient pas encore démonté les panneaux. Et là, on revient sur ce qu'on a mis des années à obtenir comme recul de la publicité. Et d'autres choses comme ça qui se trouvent, il y avait 5 dispositions en tout, donc une sur les stades et puis 4 autres qui étaient des choses rajoutées, dont certaines complètement illégales d'ailleurs. Parce que là, on avait dans le décret une disposition qui contredisait la loi. Alors ça, c'est carrément anticonstitutionnel, on n'a pas le droit avec un décret de changer les dispositions de la loi. Alors heureusement, hein, comme vous l'avez dit, effectivement, les associations se sont mobilisées, ont mis en place des pétitions Internet, on a fait une grande plateforme et on a obtenu 60 000 signatures. Et donc finalement, tout ce fatras scandaleux a été abandonné, en maintenant donc uniquement la question des stades qui, eux, vont rester livrés à la publicité comme prévu.
C'est-à-dire que là-dessus, ça n'a pas été possible de reculer?
Non, on n'a pas réussi à faire reculer cette disposition.
Je comprends que vous ayez le blues, Thomas Guéret, parce qu'effectivement, on a l'impression d'une valse et d'un va-et-vient continuel. À chaque fois qu'il y a une petite victoire quelque part, en fait, elle est grignotée, elle s'éboule quelques années plus tard. Et effectivement, le rôle des députés, là, est tout à fait intéressant. Je pense à ce qui se passe autour de la publicité pour les enfants, où on s'aperçoit que là aussi, dans l'enceinte parlementaire, il y a des discussions, des débats tout à fait étonnants qui ont lieu.
Oui. On a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, après aussi une longue mobilisation d'associations, dont notamment les associations non violentes, qui réclament depuis très longtemps que la publicité soit supprimée des émissions pour les enfants, et même 15 minutes avant, 15 minutes après. Ce qui est le cas en Belgique notamment, et puis dans d'autres pays. Les Québécois allant encore beaucoup plus loin, puisqu'ils ont complètement interdit la publicité destinée aux enfants, ce qui est très bien.
Dites peut-être en deux mots pourquoi ça vous paraît si important.
Eh bien, en fait, on sait hein, tout simplement que les enfants, je crois, avant l'âge de 8 ans, ne font pas réellement la distinction entre les programmes télévisuels et la publicité. Ils ont beaucoup de mal à distinguer ce qui fait partie de cette propagande publicitaire pour déclencher des actes d'achat, quoi, pour les manipuler, et puis le reste des programmes. Ce en quoi, d'ailleurs, ils n'ont peut-être pas tort, parce qu'on se rend compte que le métier, comme on sait, hein, le métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, comme disait l'ancien...
Patrick Lelay,
l'ancien vice-président de TF1. Ça avait fait grand bruit, parce que tout d'un coup était révélé au grand public la véritable nature de la télévision. Et donc là, effectivement, il y a eu un projet, une disposition législative adoptée par le Sénat, qui devait être supprimée grâce à un habile tour de passe-passe organisé par le gouvernement, à savoir une députée avait déposé un projet d'amendement de la loi qui devait normalement être accepté puisqu'il était dicté par le gouvernement et qui consistait à dire « bon, on ne va pas interdire, mais on va faire une étude, etc. » Donc un truc habituel, on supprime une disposition coercitive pour la remplacer par du fumeux. Sauf que le jour où ça a été voté, eh bien, il n'y avait pas du tout la majorité suffisante du gouvernement dans l'hémicycle. Et donc les députés ont refusé l'amendement qui allait modifier le projet de loi présenté par le Sénat. Et donc la disposition passait. Alors maintenant, il va y avoir une deuxième lecture. Et évidemment, immédiatement, la ministre de la Culture et de la Communication a tout de suite dit que non, quand même, on n'allait pas mettre en danger à ce point-là le pauvre audiovisuel public et que donc il fallait absolument sauver la publicité dans les programmes de jeunesse parce qu'autrement, on n'aurait plus d'argent pour faire de bons programmes, ce qui est bien connu. Enfin, donc on est dans une espèce, dans tous les domaines finalement, dans cette espèce de harcèlement, de bombardement, de nouvelles dispositions, de pression, de lobbying pour petit à petit enfoncer toutes les protections du citoyen contre la manipulation publicitaire. Et à ce sujet, il y a quelque chose de très important à dire, c'est que la publicité est ce qu'on appelle un système à rendement décroissant. Plus on fait de publicité, et plus les gens se protègent contre la publicité. C'est-à-dire que l'esprit humain est bien fait quand on le sollicite de manière répétée et désagréable. Ben, il va finir par s'insensibiliser, par s'adapter, par trouver des échappatoires. Et donc les publicitaires sont en permanence confrontés à ce fait-là, c'est qu'il leur faut inventer en permanence de nouveaux supports, des nouvelles couleurs, des nouveaux mouvements, des nouvelles idées, etc. C'est tout le boulot finalement des agences de pub qui doivent sans cesse trouver des moyens de franchir les barrières que individuellement on met pour pas se faire embêter. Et donc ils ont un attirail absolument terrible d'outils, un arsenal on pourrait dire, d'armes terribles pour faire ça. Et donc j'ai parlé des relations publiques, hein, mais on a toutes les formes de publicité. Et donc ils s'emploient en permanence à ça. Mais malgré tout, ça a ses limites. Donc il leur faut en permanence transgresser soit les convenances, c'est-à-dire effectivement, progressivement, on a mis les femmes de plus en plus nues parce que ça suffisait plus de montrer le nombril, il fallait qu'on voie la poitrine, etc., et le porno chic, etc. Donc progressivement, on enfonce toutes les défenses, toutes les restrictions sociales. On fait passer ça pour des progrès, évidemment, parce que vous comprenez quand même qu'est-ce que c'est pudibond de ne pas montrer les femmes nues. Puis après ça, quand on a dit « mais arrêtez donc ce sexisme horrible », ils ont dit « bah oui, c'est vrai, on est sexiste, maintenant on va montrer les hommes nus aussi, comme ça il y aura l'égalité des sexes hein. ». Alors voilà, on est dans cette fuite en avant permanente. Et c'est vrai aussi au niveau des dispositifs. C'est-à-dire que récemment, qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? Bon, les publicités sont devenues très grandes, mais elles étaient déjà très grandes au début du XXe siècle. Hein. Il a fallu les éclairer. Après, on les a rendues mobiles, avec des petits machins qui enroulent ou des petits trucs qui pivotent. Et puis, maintenant, il y a les publicités vidéo. Mais personne n'en veut, des publicités vidéo. C'est abominable. C'est
dans la rue ?
Alors, d'abord, dans le métro. D'ailleurs, le format 4x3... dont je parlais tout à l'heure, est né dans le métro parisien. C'est là qu'il a été expérimenté, et comme les gens l'ont à peu près accepté, on a commencé à en mettre ailleurs. Mais les gens n'aiment pas la publicité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quand on met un nouveau panneau publicitaire quelque part, On va surtout pas mettre de la publicité pour la lessive ou pour les automobiles en premier. Parce que là, les gens détestent ça, ils vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette agression ?» On va leur mettre une belle campagne humanitaire ou un bon contenu culturel. Comme ça, ils voient un petit Africain qui meurt de faim. Et alors là, c'est intéressant parce qu'au lieu de voir le support, de dire « mais qu'est-ce que fout ce panneau ici ? Avant, je voyais les arbres », on voit le message. Ça, les publicitaires savent très bien jouer là-dessus. Donc, je vois un petit Africain qui meurt de faim, et là, ça me renvoie à ma propre culpabilité, à me dire « ah oui, quand même, les pauvres, etc. » Donc ça, on occulte complètement l'esprit critique en envoyant un message de ce type. Puis progressivement, le message va être transformé, les gens vont s'accoutumer à la présence de la publicité. Voilà, je peux continuer longtemps comme ça, hein.
Thomas Guéret, vous avez la gentillesse de nous recevoir chez vous. Et justement, à la fenêtre, là, je ne sais pas si les auditeurs l'entendent, mais on assiste à quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant dans le cadre de ce dont vous nous parlez. Ça ressemble à une manifestation. Il y a des pancartes, il y a un mégaphone avec de la musique et des gens qui s'agitent et qui sautent. Mais ça n'est pas vraiment une manifestation, c'est plutôt une publicité qui prend la forme d'une manifestation. Et justement, je m'apprêtais à vous demander qui sont les associations qui aujourd'hui se battent contre la publicité, comment le font-elles, pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs, peut-être est-ce que vous pourriez nous dresser un tableau de ces opposants à la publicité, même si nous sommes tous des opposants à la publicité, vous nous l'avez bien rappelé. Mais parlons un peu de ces paysages de France, rap, il y avait les déboulonneurs également, il y a casseurs de pubs, enfin il y en a énormément.
Oui, il y a différents mouvements qui soit sont liés à un sujet en particulier, donc on a parlé de paysages de France et puis d'autres associations qui s'intéressent aux paysages, qui luttent contre la publicité. Paysages de France, on est quand même vraiment fait la spécialité, même s'il touche à quelques autres domaines liés au paysage, pardon. Ensuite, il y a dans les choses un peu thématiques, il y a des associations qui luttent contre la publicité sexiste, par exemple. Ensuite, il y a effectivement casseurs de pubs. Alors, casseurs de pubs, c'est intéressant parce qu'eux ont maintenant fondé depuis une douzaine d'années une revue qui s'appelle La Décroissance, qui se sous-titre Le journal de la joie de vivre, et dans lequel on trouve une critique radicale de la publicité, mais aussi une réflexion vraiment sur le productivisme, la nécessité de décroître. Et bon, ça fait vraiment partie du paysage, c'est intéressant. Ensuite, il y a donc Résistance à l'agression publicitaire, qui est une association dont j'en ai été président pendant 10 ans, entre 1998 et 2008, et qui, depuis l'an 2000 à peu près, a un permanent. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça fait quand même une plateforme, une stabilité, un acteur qui est là depuis longtemps. Le point notable de RAP, Résistance à l'agression publicitaire, c'est que c'est une association légaliste. Déjà, c'est une association, elle a des statuts, et elle ne fait pas des choses illégales. Parce que c'est facile contre les panneaux de se dire, on va aller les barbouiller, mettre de la peinture, des choses comme ça.
Mais effectivement, les barbouilleurs ont fait ça, voilà, plusieurs fois.
Alors ça, c'est intéressant parce que RAP ne l'a pas fait, mais certains membres de RAP disaient, mais quand même, il faut le faire, etc. Alors on trouvait quand même des biais, c'est-à-dire on peut recouvrir un panneau avec de la bande adhésive, une bâche, et puis comme ça, il est caché, symboliquement, on l'a recouvert, on a mis un message à la place, mais il n'y a pas de dégradation. D'autres ont eu une autre approche, qui, notamment Yvan Gradis, qui a mis en avant l'idée de la légitime réponse, en disant « mais les panneaux sont là dans notre environnement, on ne les a pas demandés, et même quand un citoyen se bat contre les panneaux, qui va même dénoncer un panneau qui est illégal auprès de la mairie, et bien dans 90% des cas, la mairie ne fait rien, l'État ne fait rien, et si on veut obtenir le démontage du panneau, il faut attaquer en justice. » Facile, très facile pour un simple citoyen d'aller jusqu'au tribunal administratif.
Et pas du tout onéreux.
Et pas du tout onéreux, et puis très compliqué, évidemment. Alors, des citoyens se sont dit, bon, voilà, on a été gentils, on a essayé de contacter les politiques avec RAP, avec Paysages de France, on a fait des actions symboliques de recouvrement, des panneaux, etc., mais il faut aller plus loin. Alors, ils se sont dit, on va faire une action de désobéissance civile. Donc, là, il y a eu un mouvement très intéressant en 2003, c'est qu'à l'appel de quelques militants qui avaient un petit peu organisé le truc quand même pendant quelques mois auparavant, des centaines de personnes se sont retrouvées dans le métro pour aller barbouiller et arracher les publicités. Ça a été un mouvement de fond absolument phénoménal. Il y a eu 3 dates successives et à chaque fois, il y avait plus de monde. La première fois, il y avait 100 personnes, la deuxième 200, la troisième 400. Enfin, c'était absolument énorme. Donc la RATP a réagi, et surtout son agence publicitaire Metrobus, qui appartient à Publicis. Donc ces braves gens ont réagi en demandant à la police d'intervenir, et il y a eu, dans les quatre lieux de rendez-vous, des carentiers de policiers, et puis des interpellations, etc. Et 60 personnes dont on avait le nom, dont la RATP avait pu retrouver le nom, ont été assignés en justice. Mais alors ces gens-là se sont retrouvés attaqués en justice sans y être préparés du tout. Certains étaient mineurs même, d'autres étaient étudiants, d'autres précaires, n'avaient pas trop d'argent, avaient d'autres soucis, ne voulaient pas, pression sociale, les parents, enfin. Et donc seulement une poignée de ces militants, je crois 8 d'entre eux, 8 ou 10 d'entre eux, eux voulaient vraiment utiliser ce forum, la justice comme...
Comme une tribune,
voilà, pour parler de l'agression publicitaire. Ça a été le cas, l'affaire a fait vraiment très grand bruit, mais au moment du jugement, il y a eu des condamnations qui n'étaient pas atroces contre les barbouilleurs, et les 8 ou 10 en question ont dit « nous, on ne veut pas être condamnés comme ça, on veut faire appel ». Mais la partie adverse, qui attaquait dans cette histoire, a dit « Si un seul d'entre vous fait appel, nous, on fait appel pour les 63. » Donc, on renvoie tout le monde dans une procédure en appel. Donc, finalement, ils ont fait du chantage. Donc, les quelques motivés de la bande ont dit « Très bien, on ne fait pas appel. Par contre, on va changer nos modes d'action. On va faire des actions qui sont effectivement illégales, mais qui sont revendiquées, avec des gens qui sont prêts, effectivement, à aller en justice, donc qui vont assumer ça, c'est-à-dire une démarche à la Gandhi, finalement. Et on fait une démarche de désobéissance civile avec un objectif bien identifié, avec un mode d'action proportionné, et une action qui est nécessaire, puisque justement, tout ce qui a été fait par les voies légales a été malheureusement battu en brèche. Et donc, il y a eu plusieurs procès comme ça organisés par ce qu'on appelle, le groupe qu'on appelle les déboulonneurs.
Et donc, cette action, ça consistait toujours à aller effectivement barbouiller de l'affichage publicitaire. Oui. Enfin, quand on parle de barbouillage, on parle en fait de phrases qui sont inscrites ou de peintures pour masquer une partie de l'affiche.
Voilà, c'est ça, c'est de la peinture sur les panneaux. Alors ça s'est déployé au fur et à mesure de l'évolution des dispositifs publicitaires. Au début, c'était plutôt les affiches papier. Et puis aussi des affiches sous verre, rétroéclairées, circulantes. Et puis après sont apparus les panneaux publicitaires vidéo dans le métro. Donc là, il y a eu des actions dans le métro. Il y a un petit bouquin d'ailleurs qui relate le procès, qui s'appelle « L'histoire leur donnera raison », qui relate le procès de déboulonneurs qui étaient intervenus dans le métro contre les panneaux vidéo. Voilà, donc un mode d'action vraiment inspiré de la non-violence et de la désobéissance civile, et qui porte ses fruits puisqu'on en parle, puisque la justice s'en tient compte. Il y a déjà eu une relaxe.
C'était en 2013 ?
Oui. Oui. Alors, le 25 mars. D'où, du coup, l'idée d'une action internationale contre la propagande publicitaire le 25 mars chaque année. Parmi les mouvements anti-pub, bien, il ne faut peut-être pas parler seulement de la France. Depuis la fin des années 80, au Canada et en Amérique du Nord de manière générale, parce qu'il couvre beaucoup les États-Unis, il y a un groupe qui s'appelle Adbusters, qui veut dire casseur de pub, et qui fait un travail très intéressant de décryptage et de dénonciation du discours publicitaire. Bon, eux ont pris depuis quelques années une orientation un peu particulière, puisqu'ils ont dit « on va vendre notre propre marque de chaussures ». Ils ont dit « on va faire une chaussure sans publicité, et ce sera ça la marque, c'est qu'il n'y a pas de publicité ». Alors, un gros point noir qui dit « il n'y a pas de marque ». Alors bon, c'est un petit peu discutable, mais en tout cas, ils continuent à publier leur magazine qui s'appelle Adbusters et qui est très intéressant sur la dénonciation du système.
Mais en tout cas, ce que je remarque, Thomas Guéret, c'est que la stratégie, dirais-je, des associations françaises consiste plutôt à lutter contre le déferlement, alors que cet exemple américain que vous nous donnez s'attaque plutôt au contenu des publicités.
Oui, c'est vrai, mais aux États-Unis, il y a aussi des mouvements de détournement d'affiches et de barbouillage. Ça a toujours existé. C'est rapporté notamment par Naomi Klein dans son livre
Nos logos.
Voilà. Au niveau international, il y a d'autres groupes qui existent, qui sont en Suisse. Il y a eu pendant quelques années un groupe en Belgique et il y en a un qui est en train de se remonter maintenant. Et puis, depuis l'année dernière, sous l'impulsion du président actuel de RAP, qui s'appelle Khaled Gaiji, RAP a participé au Forum social mondial pour établir une plateforme internationale anti-publicitaire. Je pense que ça, c'est vraiment l'avenir de la lutte anti-publicitaire, parce qu'on se rend compte que les lobbies, évidemment, des grandes marques sont à Bruxelles. Et donc, on peut faire le lien aussi avec d'autres sujets qui ont été traités dans cette émission. Par exemple, le lobbying des grandes entreprises transnationales, et notamment le CEO, Corporate Europe Organization.
Observatory.
Observatory, qui dénonce justement les stratégies de lobbying des entreprises. Moi, je crois qu'il faudrait travailler avec ces gens-là pour mettre en lumière le lobbying des publicitaires en général et peut-être les pratiques publicitaires de l'ensemble de ces entreprises transnationales. C'est peut-être le moment de faire un rappel intéressant d'ailleurs, c'est que on parle de la publicité, on veut souvent nous la faire passer comme quelque chose qui est novateur, intéressant, qui va proposer de nouvelles idées, qui est gay, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais en même temps, posons-nous tout simplement la question de qui fait la publicité. Et dans un livre très très bien là, qui s'appelle « De la misère humaine en milieu publicitaire » qui date...
C'est un classique là, vous.
D'ailleurs, ces auteurs étaient passés terre à terre, je crois,
il y a une dizaine d'années. Ça doit être 2003, je crois.
Ça date de 2004, le livre. 2004, voilà, oui. Et donc là-dedans, ils rappellent des chiffres tout simples. Hein. Alors ça décrit la France de l'an 2000. Et donc ils disent tout simplement que 20% du budget publicitaire en France est fait par 27 entreprises. Et que 80% du budget publicitaire en France est fait par moins de 1000 entreprises. Alors qu'en France, il y avait à l'époque 2,4 millions d'entreprises. Oh. C'est-à-dire que 0,001% des entreprises françaises font 20% du marché publicitaire et que 0,04%, c'est-à-dire 0,4 millième, hein, 4 dix millièmes des entreprises font 80% du marché de la publicité. Paul Ariès, lui, dans son livre, parle de 0,1% des entreprises qui feraient 99,9% de la publicité. Voilà, dans son petit manuel anti-pub « Démarque-toi ». Et voilà, donc tout ça, ça montre une chose, c'est que quand on parle de publicité, alors les publicitaires mettent en avant là la liberté d'expression commerciale. C'est-à-dire, ils parlent plus du matraquage commercial, hein, ils parlent de la liberté d'expression commerciale. Mais il faut voir que c'est pas le boulanger du coin, ou l'épicier, ou le commerce, ou l'artisan qui fait la publicité. L'écrasante majorité, ce sont les multinationales.
Pour un budget qui est tout sauf anecdotique.
Oui, qui est absolument énorme. C'est de l'ordre de 30 milliards d'euros chaque année. Et encore, ce chiffre-là est déjà un peu ancien.
J'ai lu en tout cas que c'était le deuxième plus gros budget du monde.
Oui. Alors, au niveau mondial, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la publicité vient en second après le budget de l'armement. Donc, c'est intéressant comme comparaison. On a la guerre contre les cerveaux. Hein. On a parlé des cerveaux disponibles tout à l'heure. Et la propagande, qui fait partie de la guerre, hein, qui est le deuxième budget.
Mais Thomas Guéret, peut-être pour conclure, une question difficile, je ne sais pas si vous aurez la réponse, dans quel but ? Est-ce que véritablement, ça nous a transformés, nous, pauvres humains, en acheteurs compulsifs qui ne faisons plus que ça ? Est-ce que, au-delà de ça, vous parlez d'une guerre contre les cerveaux, et c'est vrai qu'on a le sentiment parfois de ne jamais être chez soi, dans son propre cerveau, d'être toujours envahi et d'avoir beaucoup de mal à résister, justement, à toutes ces agressions, qu'elles soient visuelles, sonores.
Ça va très très loin. Je me rappelle qu'en 1998, on avait fait une campagne contre le pelliculage des autobus par la publicité. C'est-à-dire on collait une publicité sur la totalité de la surface du véhicule, vitre incluse. Hein. Alors il y avait des petits trous dans la pellicule de plastique de manière à ce qu'on voit un petit peu à l'extérieur, mais c'était terrible. Les gens souffraient de claustrophobie, il y avait l'éclairage dans les véhicules toute la journée, les gens ne reconnaissaient plus leur autobus, c'était terrible, terrible. Et donc, évidemment, ça avait été proposé au moment de la Coupe du Monde de football en 98, en France, à Paris notamment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est battu contre ça, on a organisé des jonchées, c'est-à-dire on rentrait dans les autobus, on distribuait des tracts, on s'allongeait dans l'autobus, on convoquait la presse, on a eu des bons articles, et finalement, aussi aidé par les associations d'usagers des transports, qui ont trouvé quand même ça vraiment abusif, on a obtenu... Là encore, une demi-victoire, c'est-à-dire que ces campagnes restent exceptionnelles et qu'elles ne couvrent pas plus que 20% de la surface vitrée des autobus. Bon, alors on s'était fait avoir, mais pas complètement. Alors, pourquoi est-ce que je raconte ça ? C'est parce qu'à l'époque, on avait écrit un petit texte signé de Michael Louis qui disait « Et pourquoi pas des masques publicitaires ?» Finalement, on a tous une surface, là, qui est la surface de notre visage, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre des publicités et louer ce visage à la publicité ? Donc c'est une manière un peu exagérée, une caricature qui était là pour marquer les esprits. Mais depuis, il y a Facebook qui est arrivé, c'est-à-dire le livre des visages. Alors Facebook, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où notre vie privée est complètement utilisée parce qu'on va y publier des photos, parce qu'on fait vivre ça, qu'on attire des gens, c'est utilisé pour la publicité. Nos données personnelles deviennent les supports d'une personnalisation extraordinairement efficace de la publicité. Pour aller encore plus loin, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ubérisation du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un appartement, bien vous pouvez choisir de le mettre sur Airbnb ou des choses comme ça, c'est-à-dire un service Internet qui vous permet de faire venir des gens qui vont vous louer votre appartement quand vous n'y êtes pas, ou qui vont permettre de rentabiliser votre voiture pour vous en servir de taxi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque petite parcelle de notre vie, y compris privée, y compris intime, va devenir commercialisable. C'est-à-dire que là où j'avais mon appartement et je me disais, bah chouette, j'en profite, j'invite des copains, je fais j'ai une vie sociale épanouie, on se fait plaisir, on fait du culturel, etc. Je vais petit à petit, avec ce système, être complètement vampirisé par le système commercial. Et donc, on voit s'amenuiser complètement la dimension finalement gratuite et désintéressée et culturelle de nos vies pour être remplacée. Complètement, on va bourrer nos vies avec des choses qui sont là pour faire du fric et pour survivre économiquement.
Vite, Thomas Guéret, souvenons-nous de ce que vous nous disiez tout à l'heure, qu'il ne suffit de pas grand-chose finalement pour faire reculer la publicité. On peut encore aujourd'hui, ou bien ça y est, c'est fini, c'est le tsunami?
Oui, je pense que bien sûr, on le peut. Je crois qu'on ne fera pas l'économie d'une réflexion qui est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, qu'on pourrait peut-être de manière un peu simpliste mettre sous la bannière de la décroissance. C'est-à-dire que je crois qu'on arrive à un niveau de destruction des liens sociaux et d'artificialisation de nos vies qui est terrible. Et on doit se poser, en même temps que la question de la publicité, cette question-là de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on nous impose tout le temps plus de consommation, des nouveaux appareils, l'obsolescence programmée, toutes ces choses terribles. Et on pourra peut-être faire marche arrière et arriver à revenir à une société plus soutenable.
Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le dessert. C'est publicité, moi j'ai pris la liberté de faire ma propre publicité, m'essayer c'est ma dureté.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et quelques liens. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chenepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Delphine Baudet, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.
J'ai du velours sur l'estomac et une peau nette comme le satin. Je suis le modèle conforme, venez donc voir mon magasin. Chez moi le parking est tout près, je n'ai vraiment qu'un seul regret. De ne pas être universel à l'école des demoiselles. Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté de faire ma propre publicité. M'essayer c'est ma tort.